Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Ce soir, on chausse les crampons, ou presque. Michel Cotta, vous les avez, les crampons? Parce que Charles Villeneuve, il les a enfilés depuis un moment, je peux vous le dire. Bonsoir à tous les deux et bonsoir, et j'accueille Karl Meus. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Bonsoir à tous les trois. Je suis ravie de vous avoir ce soir. Je suis évidemment comme un poisson dans l'eau, hein, parce qu'on est 100% football, ou quasiment. Quasiment, on va être très sincère avec nos auditeurs, parce que on va commencer par quoi ? On va commencer par des esprits très accaparés par le transfert d'une superstar, dont l'interminable feuilleton est proche du dénouement. C'est comme ça qu'on le vend bien, Charles Villeneuve. On parle de qui là ? On parle de Neymar, avant bien sûr de parler du tirage au sort. Ça, évidemment, Jean-François Pérez est dessus.
Moi, je ne le trouve pas tellement interminable.
Oh.
Au contraire, quand un transfert doit se faire, surtout à ce niveau, il doit être assez long. Et en général, quand il est long, c'est parce qu'il va se faire. Et donc, il se fera, puisque tout à l'heure, Jean-François donnait un indice, celui de Neymar qui ne fait pas le déplacement à Metz pour le match demain soir avec le Paris Saint-Germain, ce qui veut dire donc que les négociations continuent, et que les négociations continuent d'autant plus que les deux présidents, aussi bien celui de Barcelone que celui de Paris, sont à Monaco au moment du tirage au sort.
Là.
Or, il n'est pas du tout obligatoire même que les présidents fassent le déplacement pour un tirage au sort, fût-il celui de la Champions League, qui évidemment
draine
le maximum de recettes, aussi bien sur le plan des télévisions que dans les stades.
Donc là, on a deux éléments qui convergent, j'allais dire, ou en tout cas qui nous disent que de toute évidence, on pourrait effectivement aller vers cette offre. Comment vous lisez ça, Michel ?
Vous avez un regard, ou ça vous passe complètement ? Je le lis, si j'ose dire, comme tout le monde, et pas comme un spécialiste qui est Charles Villeneuve. Moi, franchement, oui, je trouve ça long. Je comprends très bien qu'un leader de cette classe, on doit pouvoir réfléchir avant. Bon, mais je trouve que, franchement, c'est ridicule. Ce type qui, finalement, a jamais été un joueur extraordinaire à Paris, au PSG, ailleurs, on sait bien.
Même au PSG. Il l'a été.
Il l'a été, il l'est plus depuis longtemps.
Voilà.
Il n'est plus dans les matchs. D'accord, mais c'est le sentiment qu'on a. Il n'est plus dans les matchs. Et moi, je trouve que surtout, c'est vraiment, ça fait maquignonnage, quoi. On a l'impression de vendre.
Ouais, mais c'est intéressant ce que vous dites, Michel.
Un taureau formidable.
Oui, mais justement,
qui fait
c'est ça. C'est peut-être ça.
Merveilleux.
C'est intéressant ce que vous dites, Michel. Et c'est peut-être là-dessus, Karl Meus et Charles Villeneuve, qu'on peut aller. C'est qu'en fait, la force médiatique, elle est peut-être plus forte que le terrain aujourd'hui. C'est ça ? C'est le truc, en fait.
Oui, c'est la force de la marque, en réalité. Ce qu'ils vendent, le PSG,
c'est
une marque, c'est les maillots. Et surtout aussi, c'est un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils l'ont payé quand même. Alors là, je ne me souviens plus du prix. Je pense que Charles Villeneuve
222,
le connaît.
222 millions.
Voilà. 222 millions.
Là, aujourd'hui, on parle
et
de 170.
Et un salaire de 36 millions d'euros nets
le
par an.
Voilà. Et là, on parle de 170 millions. Donc on voit que ce n'est pas forcément une excellente affaire pour le PSG.
Non.
Et en même temps, s'il le gardait, vu tout ce qui s'est passé pendant cet été, ça serait pire que tout. Parce que pour le coup, je pense que même si on parle beaucoup d'individualité avec ses achats, ses transferts, le football reste, à mon sens, un sport collectif. Et que s'il y a un homme comme ça qui met une mauvaise ambiance, ou parce qu'il reste et que ça crée une mauvaise ambiance au sein de l'équipe, ça joue sur les performances.
Ce dont on ne se rend pas compte,
ouais, Charles,
avec Neymar, c'est que si le football professionnel français de la Ligue 1 a pu, si vous voulez, décrocher, a passé le milliard de droits des télés, c'est parce que Neymar et dans le championnat de France. Ce qu'il a apporté à la Ligue 1, ce qu'il a attiré, évidemment, il y a des Mbappé, il y a d'autres joueurs, mais sa résonance est mondiale. C'est l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Et il a un avantage sur Ronaldo et Messi, c'est qu'il est jeune encore. Donc, il a un devenir. Et c'est une perte pour la Ligue 1, c'est une perte pour la Ligue de football professionnel, c'est une perte pour le PSG.
Donc, pour vous, Charles, ultime proposition, là, ça se joue certainement peut-être en ce moment où ça vient de se jouer,
oui,
en même temps
en
que le tirage. C'est en train de se jouer, en tout cas, à Monaco, c'est ce que vous nous dites.
Mais je suis d'accord avec Karl quand il dit que, compte tenu de l'ambiance déplorable qu'il a pu mettre de toute façon, avec ce jeu et puis cette sorte de machine à cash qu'il a fabriquée avec son père, c'est extrêmement désagréable.
Oui, parce qu'on rappelle que c'est un bon joueur.
Là, je partage.
On rappelle
très
en tout cas,
non, mais
Michel, vous avez
bon
raison.
Joueur, mais un joueur qui met le souk dans l'équipe, c'est vrai que c'est pas formidable. Quoi.
On a deux saisons gâchées par des blessures et des polémiques avec Neymar,
oui,
les deux dernières.
Alors ça,
Michel,
c'est le talon d'Achille, si j'ose dire.
bien
parce
joué,
que le métatarse, son métatarsien qui est fracturé, S'il ne passe pas par la greffe, tôt ou tard, il sera obligé d'y passer. Et dès lors, ça prendra 4 à 5 mois. Il y a un jeune joueur français, Gaël Clichy, qui était l'arrière-gauche de Wenger. Au moment de son transfert sur Manchester City, il avait là exactement la fracture à l'identique. J'en ai parlé à Ferguson avec Arsène Wenger. Et eux disent, je ne comprends pas que finalement, l'orthopédie brésilienne ne lui a pas prescrit une greffe. Quoi.
Bon alors, qu'est-ce qui va se jouer concrètement? Parce qu'il y a toujours l'histoire du deal, l'ensemble de montage qui n'a pas satisfait les décideurs de la capitale. Il faut trouver l'argent, c'est l'ère de la guerre, évidemment.
Mais Nathalie, le Barça a acheté Griezmann cet été 120 millions d'euros, plus le joueur de l'Ajax ou l'Ajax, nous on dit l'Ajax en France, 75 millions d'euros, De Jong. Et donc ça vous fait une sortie de 195 millions d'euros. Aller chercher déjà 170 millions d'euros pour amorcer le transfert de Neymar. Vous imaginez ?
Ce qui m'amuse le plus aussi, c'est les... On dit d'accord, on vous donne tant d'argent, mais alors il nous faut un joueur, deux joueurs. Ils disent non. Pour commencer, c'est bien. Mais alors, le joueur dit non, alors on dit, ah ben alors si c'est pas Dembélé, ça peut être quelqu'un d'autre.
C'est espèce de...
Non, mais c'est espèce de...
Ça se tranchait, Charles.
Oui, mais c'est espèce de troc permanent, moi, qui me choque, voilà.
C'est tranché que ce sera pas Dembélé ? Jean-François Pérez, attendez, Jean-François Pérez est dans la place et on veut connaître avec vous, chef du service des sports d'Europe 1. Magnifique. On a
le premier adversaire du Paris Saint-Germain et c'est un coup de tonnerre, mesdames, messieurs, puisqu'il s'agit du Real Madrid.
Oh là là.
De Zinedine Zidane.
Non.
Le pire qui pouvait arriver au PSG ou pas? Ah, c'est le pire qui pouvait arriver au PSG en tant que premier adversaire.
Vous savez ce que c'est que le teasing? C'est vos commentaires juste après la pub, on veut tout savoir. Michel Cotta, Jean-François Pérez, ça va faire très très mal. Alors restez avec nous sur Europe 1 pour tout savoir.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir autour de la table, autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. Et vous, vos réactions et vos questions au 39-21, 50 centimes la minute.
Et Jean-François Pérez qui nous accompagne ce soir, chef du service des sports d'Europe 1, heureusement, parce que là, c'est un moment qu'on est en train de vivre et qu'on a commenté pendant la pause. C'est les sueurs froides, en gros, qu'on se prend parce que le PSG va être en face du Real Madrid dans la poule A.
Comme d'habitude, Nathalie, le Paris Saint-Germain est souvent malchanceux au tirage au sort en Ligue des Champions. Mais de notre côté, ça nous promet une affiche extraordinaire dès cet automne au Parc des Princes et à Santiago Bernabéu à Madrid face au grand Real de Zinedine Zidane. Le Real, doit-on le rappeler, 13 fois vainqueur de la compétition.
Ça ne veut pas dire qu'on ne sortira pas de la poule, puisque s'il y a plusieurs clubs là dans la poule.
Mais on peut être deuxième.
C'est sans les deux premiers qui sont qualifiés. Alors on aura du mal à être le premier. Donc, encore que...
Donc, non mais là c'est du très très lourd, Karl Meus. C'est vraiment ce qu'on veut. On aurait pu citer quoi? Barcelone, il aurait pu y avoir la Juventus, le Real.
Non, c'est le pire tirage que le PSG pouvait avoir, évidemment. Après, dans la Ligue des Champions, il y a un moment où il faudra les battre. Que ça soit en poule ou que ça soit après
en huitième ou en quart,
il y a un moment, il faut battre quand même des équipes qui sont sur le papier supérieures.
On rappelle que les deux équipes peuvent se retrouver éventuellement en demi-finale ou en finale.
Exactement.
Ça va être peut-être le cas, d'ailleurs.
Qui sait ?
Et dites-moi un truc, le PSG visera quand même, quoi qu'il en sera, encore la première place du groupe, censé offrir une huitième de finale plus favorable ? On peut imaginer qu'il se positionne dans cette optique-là ?
Ah bah bien sûr, il manquerait plus que ça.
Ah bah, je sais pas. Enfin, quand
le Paris Saint-Germain a quand même investi plus d'un milliard d'euros en joueurs, notamment pour devenir l'un des top 4, top 8 en Europe. Donc il n'y a strictement aucun complexe à faire, y compris face au Real Madrid de Zinedine Zidane.
Charles Villeneuve, aucune ombre au tableau, on dirait.
Non, bien sûr, il est bien évident. Mais simplement, il faut toujours non pas atténuer les choses, mais dire les choses. C'est évidemment le pire, Karl l'a dit, Michel aussi, Jean-François, et moi j'adhère totalement, c'est un tirage très difficile, cela étant c'est un tirage spectaculaire, mais surtout ce qu'il y a quand on rencontre le Real, c'est pas seulement Zidane, c'est aussi une histoire, c'est-à-dire ils ont plus de 10 Champions League, ils ont un palmarès absolument exceptionnel, et à lui seul il a gagné 3 Coupes d'Europe, Zidane, sans compter la sienne, c'est-à-dire lorsqu'il était le joueur.
On se souvient de cet incroyable triplé dans l'épreuve 2016 à 2018.
Pour les Français, je trouve que c'est sûrement un des trucs les plus émouvants, parce que Zidane, tout le monde l'a aimé, tout le monde l'aime. Donc voir une équipe de France, une équipe comme le Paris PSG, confrontée à Zidane, je suis sûr que ça fait
presque un déchirement.
Ça ajoute quelque chose supplémentaire à cette rencontre.
Ouais, c'est ça. Vous voulez bien qu'on prenne François, il nous appelle depuis la Corse, François, au 39-21. Merci.
Bonsoir.
François, vous avez vu l'affiche pour la Ligue des Champions, mais vous avez vu aussi que pour Neymar, ça se décidait aussi là ce soir à Monaco. On est sur les deux actualités qu'on vit en direct sur Europe 1.
Sur Neymar, bonsoir Europe 1, bonsoir à vos invités. Je crois que le médiatique l'emporte sur la valeur footballistique de ce joueur. Faut-il rappeler que le PSG en Champions League a été éliminé assez prématurément, donc faut-il qu'il confirme sa valeur intrinsèque de footballeur?
Oui, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il a une énorme valeur marchande sur laquelle le club parisien veut faire aucune concession auprès du FC Barcelone aussi, c'est ça. Et vous avez vu le tirage, François? Le Paris Saint-Germain
non,
Alors, je vous l'annonce, parce que, attendez, il faut quand même... Je martèle un peu l'information, mais on est sur Europe 1, on vit l'événement en direct. Le Paris Saint-Germain qui se retrouve dans la poule A face au Real Madrid de Zinedine Zidane. Michel Cotta disait très justement, c'est un peu comme... on vit ça comme une forme de déchirement avec ces deux équipes qu'on aime.
Bien évidemment, mais... Aujourd'hui, en ce qui concerne Neymar, c'est l'inconnu. Il faut savoir que le Paris Saint-Germain... doit confirmer son niveau européen. Vous le savez très bien que je ne veux pas critiquer le joueur. Vous savez que la dernière Coupe du Monde avec le Brésil a été contestée par un sélectionneur dont j'ai oublié le nom, par Césaré Intempestif.
Merci François, en tout cas, d'avoir réagi sur Neymar depuis la Corse sur Europe 1. On va rester sur le tirage au sort de la Ligue des Champions parce que ça se joue là, à l'heure actuelle, à Monaco. On a parlé du Paris Saint-Germain. Lyon, Lille, c'est aussi les deux autres grosses questions. Il va falloir compter sur des forces vives. Il va falloir aussi espérer que le tirage Karl Meus soit favorable. Lyon, Lille doit trembler.
Ah oui. Bah, au moins eux ils sont débarrassés. Ils ne sont pas forcément débarrassés des gros. Mais je crois qu'ils peuvent pas tomber contre le Paris Saint-Germain.
Exactement.
C'est ça,
deux clubs d'un même pays ne peuvent pas jouer dans le même groupe. Ouais.
Donc déjà, a priori pour eux, ils n'auront pas le Real dans leur poule.
Bon,
ça peut être un soulagement, mais il reste quand même le
Barça.
En
revanche, si je peux me permettre de m'insérer, il y a un groupe F dans lequel Lille, qui est dans le chapeau 4, peut tomber. C'est celui du FC Barcelone, de Dortmund et de l'Inter Milan, qui sera le grand groupe, avec peut-être celui du PSG de ce premier tour de Ligue des Champions.
Bon, bah voilà, donc Paris Saint-Germain, on est fixé. Lyon-Lille, c'est... incessamment sous peu. Donc on est ensemble dans ce studio, on vit ça en direct et on vous fait partager tout cela sur Europe 1, n'est-ce pas?
Oui, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix ce soir autour de vous, Nathalie Lévy, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Karl Meus, rédacteur en chef du Figaro Magazine. Toutes vos réactions, vos questions aux grandes voix au 39-21, 50 centimes la minute.
Et on suit en fil rouge sur Europe 1, le tirage au sort de la Ligue des Champions. On vous fait vivre tout cela avec les réactions dans ce studio et Jean-François Pérez qui nous donne toutes les informations en temps réel. On va revenir à la politique parce que c'est votre terrain, messieurs, dames, bien sûr. Je voudrais vous entendre réagir à ces incivilités contre les maires. 361 faits d'agression de maires en 2018, dont 60% sont des injures ou des menaces verbales ou sur les réseaux sociaux. Sébastien Lecornu était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk. Il est le ministre chargé des collectivités. Il a été très clair.
Ce sont souvent, dans bien des cas, des maires qui ne sont pas dans leur bureau, mais qui sont sur le terrain et qui vont directement au contact d'une situation, une rue qu'il faut fermer, un terrain qui va être envahi par des gens du voyage, que sais-je. Et c'est à ce moment-là que l'irréparable se produit. Là, il faut permettre aux maires d'aller moins en contact. Donc il faut leur permettre de tout simplement toucher au portefeuille d'un certain nombre de contrevenants. Ça s'appelle les amendes administratives. L'enjeu ensuite pour nous, c'est de ne pas abandonner les maires. Rendez-vous compte, un maire aujourd'hui est victime, il va devoir payer de ses propres deniers l'accompagnement juridique pour aller en justice. On va le prendre en charge.
C'était le ministre chargé des collectivités, Sébastien Lecornu. On en parle dans une seconde, mais je vous l'ai promis.
Il y a deux clubs qui viennent de tomber, deux clubs qui concernent la présence française. Alors dans le groupe A, le Paris Saint-Germain, on l'a dit tout à l'heure, hein, sera opposé au Real Madrid. Le troisième adversaire des Parisiens sera le FC Bruges. C'est un adversaire a priori abordable pour le PSG. Et puis Lyon connaît également deux de ses adversaires. Et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt jouable également pour les Lyonnais qui sont placés dans le groupe du Zénith Saint-Pétersbourg, le champion de Russie, et du Benfica Lisbonne. Voilà, c'est plutôt équilibré, c'est pas mal pour les Lyonnais. On attend Lille dans quelques minutes.
Ils s'en sortent mieux que nous. Lille dans quelques instants. Vous avez entendu le ministre chargé des collectivités, Sébastien Lecornu. Les incivilités, les pompiers sont touchés, les policiers sont touchés, les maires sont touchés, on l'a vu cet été, on l'a beaucoup vécu avec eux. La réaction de Sébastien Lecornu ce matin, cette prise en charge, c'est une bonne réponse à la situation aujourd'hui, Charles Villeneuve ?
Oui, ensuite, après, il a, je crois, poussé, si vous voulez, une sorte de réquisitoire contre le maire d'Antibes qui intervenait la veille.
Jean Leonetti, le président par intérim.
Et il se trompe complètement, le ministre, parce que ce que Jean Leonetti a voulu dire, ça n'avait rien à voir avec le fait que le gouvernement de Macron avait abandonné les maires. Ça fait 15 ans que l'État abandonne les maires, sur notamment toutes les dotations collectives. Par exemple, une mission régalienne de l'État, celui de la sécurité, aujourd'hui de plus en plus, compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses publiques, eh bien c'est aux maires de constituer non seulement une police municipale, mais aussi de réparer la voirie, mais aussi de faire un tas de choses qui relevaient des dotations collectives de l'État que l'État a supprimé. Aujourd'hui, je peux vous parler d'une ville de la Côte d'Azur qui a 30 000 habitants, qui touchait 6 millions d'euros de dotation et qui cette année va toucher 300 000 euros. Vous imaginez la diminution. Donc le maire, quand le ministre dit qu'il faudrait éviter que le maire aille au contact, Michel connaît très bien aussi la ville de Nice. C'est tout l'essentiel de la vie du maire et de l'action du maire.
C'est pour ça que c'est
Michel
Cotard, c'est extraordinaire.
C'est très juste. Hypocrite.
Bien
c'est
sûr.
Très hypocrite,
bien
c'est ça.
La décision est peut-être hypocrite, mais ce qui se passe à l'égard des maires est quand même extraordinairement injuste. Ce sont les seuls de nos hommes. D'abord, ce sont les hommes politiques préférés. Ensuite, ce sont ceux qui sont tout le temps sur le terrain. Et enfin, il faut savoir que et en plus, ils sont payés des clopinettes, c'est-à-dire qu'il y a 50% des communes françaises qui ont moins de 500 habitants, pour lesquelles le maire, qui est présent le matin, le soir, etc., est payé 600 euros. Bon, alors je trouve que si vraiment il y a une personnalité politique qui doit être défendue, poussée, c'est vraiment les maires. Et dire pas faire de terrain, pardonnez-moi, mais pour avoir été fille d'un maire, je peux vous dire que si on n'est pas sur le terrain, on n'est pas maire. Ou on l'est pas longtemps, en tout cas.
Karl Meus, on se rappelle, ça y est, maintenant, à ce stade du mandat d'Emmanuel Macron, des maires, des édiles, effectivement, ces personnalités qui sont les préférées des Français, qui sont au contact, qui vont de leur bureau au terrain, qui vont au contact d'une situation. Et il disait, Sébastien Lecornu, une rue qu'il faut fermer, un terrain qui va être envahi par des gens du voyage, c'est à ce moment-là que l'irréparable se produit, comme s'il ne fallait pas y aller pour les maires.
Oui, mais c'est ce que dit Michel Cotta, c'est-à-dire si le maire n'y va pas, les habitants ne le voient pas, et à ce moment-là, c'est un maire qui est bunkerisé, qui est enfermé chez lui, et il ne sera pas réélu. Le maire, c'est à la fois l'homme politique préféré des Français, mais c'est aussi la raison pour laquelle les Français l'aiment bien, c'est parce qu'ils le voient. Ils le voient au quotidien, dans leur rue, au marché, ils voient concrètement ce qu'il fait. Donc ça, c'est important de le défendre. Et au fond, ce que disait Sébastien Lecornu ce matin, en disant que l'État pourra prendre en charge une partie des frais de défense, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, moi je suis un petit peu embêté par le mot incivilité, parce qu'on est déjà au-delà.
On est dans les agressions, c'est ça, on peut appeler un chat un chat.
Il y a des menaces de mort.
Jean-Mathieu Michel.
Il a reçu des menaces de mort, le maire qui a décidé de ne plus se représenter. Dans le cas de cet été, même si c'est involontaire, il y a eu quand même mort d'homme. Donc on n'est plus dans l'incivilité, même pour les pompiers aujourd'hui. On voit bien que la courbe des violences a dépassé celle des simples agressions.
Oui, Michel Cotta, c'est ce que j'allais dire. Je fais référence à ce que dit à l'instant Karl Meus, parce qu'on devait en parler hier avec Charles Villeneuve, les incivilités contre les pompiers, les policiers,
c'est la remise en cause quand même de tout ce qui signifie, implique l'État.
Voilà.
Alors à la fois, nous sommes dans un pays dans lequel on dit il n'y a pas assez d'État, et maintenant nous sommes dans un pays où les incivilités atteignent ceux qui représentent
l'État.
Moi, franchement, je trouve que c'est une phase absolument critique de la vie politique, qu'elle est plus critique que tout, qu'on devrait s'occuper de ça uniquement, enfin pas pas aujourd'hui, puisque il y a le tirage au sort, mais on devrait s'occuper de ça. Vraiment, qui commette ces actes, il faut quand même, même s'ils sont minoritaires, il faut savoir qui les commette. Une fois qu'on les a, il faut vraiment les sanctionner. Et quand la justice les remet en liberté, à un moment donné, il faut quand même faire quelque chose.
Je donne un chiffre que vous avez peut-être vu, si vous nous écoutez sur Europe 1, les forces de l'ordre qui sont la cible en moyenne de 110 agressions, un chiffre record qui inquiète.
Par jour.
Mais les pompiers sont encore idiots. Les pompiers qui arrivent quelque part et qui se font caillasser, quand même, on a envie de crier au fou.
Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on est dans une crise post-gilet jaune encore qui a amplifié ces statistiques? Et les maires en sont victimes, les pompiers au même titre, alors qu'effectivement, ça fait partie des personnalités préférées des Français, des corps de métier préférés des Français.
Non, mais c'est un débat de fond sur lequel, de toute façon, qu'il faut avoir. Pas seulement dans les médias, bien sûr, au niveau même du gouvernement et dans les régions. Et croyez-moi, c'est celui qui sensibilise le plus les Français. Parce que, comme le faisait remarquer aussi bien Karl que Michel, c'est l'élu préféré des Français pour une raison simple, c'est que quotidiennement, il est au contact du maire.
Karl, l'effet post-gilet jaune, ça a laissé des traces claires.
Statistiquement, oui, forcément, dans les chiffres, on voit l'impact des gilets jaunes. Mais politiquement, ça a commencé bien avant. Souvenez-vous des manifestations contre la loi El Khomri, où vous voyez la voiture de police qui est agressée, qui brûle, et les policiers qui sortent, qui ne peuvent rien faire. Combien d'images a-t-on vu, les Français ont vu, de policiers obligés de faire demi-tour avec leur voiture et de fuir devant l'agression des bandes? Comment voulez-vous qu'il y ait une autorité dans ces quartiers-là? Parce que je rappelle que samedi, les pompiers, c'est pas n'importe où en France qui sont caillassés et qui sont pris pour cible. C'était dans le quartier du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie. Bah, à partir du moment où les policiers ne peuvent plus faire état d'autorité dans ces quartiers-là, derrière, ça arrive sur les pompiers, ça arrive ailleurs.
Exactement. Merci à tous les trois d'avoir réagi ce soir. On a parlé football et on va y revenir parce que c'est le fil rouge de la soirée, si vous le voulez bien. Michel Cotta, Charles Villeneuve, Karl Meus, vous entendez Jean-François Pérez qui nous refait le film de cette fin de journée Ligue des Champions. Allons-y.
On y va. Alors pour le Paris Saint-Germain, ce sera le Real Madrid. On l'a commenté déjà, on va se régaler. Alors évidemment, c'est pas un bon tirage, mais c'est quand même la promesse de deux affiches formidables. Troisième adversaire pour l'instant du Paris Saint-Germain, le Football Club de Bruges, un adversaire beaucoup plus abordable. Lyon connaît son groupe complet, ce sera extrêmement compact et équilibré avec le Zénith Saint-Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et Leipzig, le Red Bull Leipzig. Vraiment quatre équipes, difficile de dire qui va terminer premier de cette poule, mais les Lyonnais peuvent parfaitement se qualifier pour les huitièmes de finale. Enfin, Lille connaît également son groupe et ses trois adversaires. Ça s'annonce très très costaud pour les Lillois, mais enfin, là aussi, on va avoir de très belles affiches. Pour Lille, ce sera Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa, l'Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an passé, et le Valence Football Club, le club espagnol,
cador
d'Europe. On va se régaler sur Europe 1 tout au long
de l'année. Un programme en or. Merci beaucoup, Karl Meus, Michel Cotta, Charles Villeneuve. Merci, Jean-François Pérez. Vous restez là parce qu'on vous retrouve dans le journal de 19h de Sébastien Krebs, évidemment. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Le journal de Sébastien Krebs, c'est dans un petit instant le tirage au sort de la Ligue Enisa.
Jusqu'à 20h, Nathalie Lévy.